Avant de démarrer cet épisode, je voulais remercier notre premier sponsor qui permet de redonner vie à ce podcast, c'est Eymundo, une assurance en ligne de qualité que j'apprécie beaucoup parce que elle t'accompagne tout au long de ton voyage grâce à une application et un service d'assistance réactif. Ils sont disponibles par téléphone 24 heures sur 24 et surtout parce qu'avec cette assurance, il n'y a pas de petites lettres, ni de chichi, tout est simple, rapide et sans processus administratif interminable pour le remboursement. Et tu me connais, je déteste l'administratif, donc si tu pars bientôt en voyage, va faire un tour sur leur site Heymundo.fr, Heymundo.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour.
Regarde-moi ça!
J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ça, c'est de la vie! C'est magique, ton roi!
C'est absolument dément.
Le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie.
Bonjour internaute et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène dans une aventure, je dirais même dans une quête, en fait même dans une enquête. L'enquête sur le cachemire, tu sais, cette laine très connue. Et aujourd'hui, je suis avec Victor Chevrillon. Victor, comment ça va ?
Eh ben, ça va très bien, écoute.
Et écoute, je suis super content de te recevoir sur ce podcast parce que habituellement, tu sais, on est vraiment sur des voyages ou des aventures, sur des choses qui finalement, on va se dépasser, on va découvrir un pays. Et là, en fait, ce que je trouvais super intéressant, c'est qu'on était plus dans une enquête et en plus sur un thème qui allait nous mener dans différents endroits. Et avant que justement on attaque cette enquête, est-ce que tu peux nous faire juste un petit descriptif pour ceux qui, tu sais, qui ça se trouve, le cachemire, on a toujours entendu parler, qu'est-ce que c'est? C'est de la laine, c'est de la peau de phoque, qu'est-ce qui se passe?
Ouais.
Pour que les gens comprennent bien dans quoi on s'embarque.
Tout à fait. Le cachemire, en gros, c'est effectivement une laine, comme tu le disais, qui vient d'une chèvre en particulier. Donc, c'est pas un mouton, là, c'est vraiment une chèvre. Ouais. C'est une sorte de petit duvet secondaire que les chèvres développent pendant l'hiver pour se protéger du froid parce qu'elles sont dans l'Himalaya ou dans les plaines dans le désert de Gobi. Donc, ça peut aller jusqu'à moins 40 degrés l'hiver. Donc, elles développent ce petit duvet qui tombe au printemps, qu'on récupère. Et après, on va le filer, le tisser pour en faire des pulls, des écharpes.
Ah, en fait, naturellement, elles vont perdre cette laine,
Exactement. Exactement. C'est pour ça, on va la peigner ou alors parfois la tondre pour tout récupérer. Mais globalement, elle perd au printemps et donc on récupère ce petit duvet.
J'imagine que t'as dû être un petit peu calé sur ce côté. Pourquoi c'est si connu? Pourquoi c'est genre, le cachemire, c'est génial? C'est quoi la particularité qui en fait quelque chose de si connu et rare?
Ouais, il y a plusieurs trucs, en fait. Tout d'abord, c'est déjà que c'est effectivement une laine d'une super qualité, en fait. C'est très fin. Et ça a des propriétés qui font qu'effectivement, c'est chaud, c'est isolant, ça tient bien la déformation, etc. Donc, le cachemire a des propriétés intrinsèques qui font que, c'est une super matière. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que, en fait, c'est rare. Parce qu'on peut produire qu'une certaine quantité de cachemire. Et c'était encore plus vrai historiquement à l'époque quand c'était un produit vraiment exotique qui venait du bout du monde. Ouais. Mais donc cette rareté lui a donné aussi ce côté luxe qui fait qu'aujourd'hui, c'est effectivement un produit noble qui a une certaine aura, quoi.
Et ces chèvres-là, parce que, qu'on comprenne, c'est des chèvres, il y a une ou deux espèces, c'est comme un peu la laine mérinos, je sais que c'est normalement, c'est le mouton un peu qui est, je crois que c'est l'espèce qui s'appelle mérinos en fait.
Ouais.
Et du coup là c'est quoi? C'est la chèvre cachemire? C'est la chèvre
du Népal? C'est la chèvre qu'on appelle couramment la chèvre cachemire.
Okay.
Qui a un nom latin, c'est la Capra Capra Hircus Laniger, c'est en gros la chèvre qui donne de la laine, quoi.
Pas mal, parce que je me suis dit merde, tu t'es embarqué dans un truc super super chaud et non tu l'as sorti. Ouais,
j'ai failli l'oublier. Donc effectivement, en fait, mais c'est pas exactement aussi simple que ça. Globalement, on parle de la chèvre cachemire, mais en fait, il y a plein de sous-espèces qui vont donner plus ou moins de laine de bonne qualité. Ah. Et justement, sur les enjeux de qualité qu'il y a dans l'industrie du cachemire, il y a pas mal de croisements qui vont être faits avec des chèvres qui donnent plus de cachemire mais de bonne qualité, etc. Donc, cet enjeu de race de chèvre est assez important pour les questions de qualité.
Et à la base, l'origine de cette chèvre, c'est les hauts sommets de l'Himalaya, les hauts plateaux des steppes de Gobi.
Ouais,
c'est quoi,
exactement.
C'est ça?
En fait, ça vient des contreforts de l'Himalaya et de la région du Tibet. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que en fait, le Cachemire vient pas du tout de la région du Cachemire. Il y a un peu de Cachemire là-bas qui est transformé, mais en fait, les chèvres viennent pas du tout de là-bas. C'est simplement qu'historiquement, le Cachemire, les marchands cachemiris étaient des grands commerçants et donc achetaient la laine de Cachemire au Tibet, etc. et eux la transformaient. Et donc, quand on a vu arriver en Europe ces beaux châles qui venaient du Cachemire, bah, on les appelait comme ça. Mais en fait, le Cachemire ne vient pas du Cachemire. Et aujourd'hui, 90% de la production de Cachemire, enfin de la matière première, la laine, vient de Mongolie et de Mongolie intérieure.
Ah, ok. Ouais, donc, Mongolie intérieure qui est une province de Chine et qui n'ont pas... Et alors, maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans cette enquête. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir à la poursuite un peu de cette matière, de tout son process et de voir un peu ce qu'il y avait derrière. Qu'est-ce qui s'est passé en fait?
Et bien en fait, il y a eu plusieurs choses. Tout d'abord, alors déjà d'un point de vue très personnel, j'avais assez envie de me lancer dans un projet qui puisse me mener dans des aventures assez intéressantes, dans des expéditions. J'avais des désirs d'aventure comme ça et une curiosité qui me donnait envie de me lancer dans ce type de projet. Ouais. Et il se trouve que en essayant de chercher un petit peu comment je pouvais mettre en œuvre cette énergie pour ouais. des projets intéressants et qui vont dans le bon sens, je me suis rendu compte un peu que en fait aujourd'hui on est dans on est dans une société où on se pose de plus en plus de questions sur la transparence des produits qu'on consomme, quel est l'impact écologique de mes baskets, le bilan carbone de mon steak, etc.
Exactement, j'en suis tombé dedans il y a à peu près 6 mois où j'ai décidé, tu vois, c'est un exemple, hein, pour compenser ouais. par exemple aussi mon mauvais bilan carbone parce que je prends souvent l'avion, de m'habiller uniquement avec des vêtements éco-responsables, et ça va effectivement des pompes jusqu'au entre guillemets au bonnet, au truc, etc. Donc ouais, c'est une vraie problématique, et je pense que c'est super intéressant de commencer à s'y intéresser. Et du coup, c'est parti aussi un peu de là, toi.
Exactement. Bah, en fait, en regardant ça, je me suis rendu compte à un moment que on connaissait rien du tout sur le cachemire. Et ouais. C'est ça qui était vraiment intéressant, c'est que ce produit, qui est un produit noble, qui est un produit de luxe qu'on aime bien, en fait, je me suis rendu compte que il y avait quasiment rien qui avait été fait dessus, quasiment aucune enquête, aucune littérature sur le sujet. Ouais. C'est ça qui en faisait un objet de curiosité pour moi. J'avais eu envie de comprendre un peu ce qu'il y avait derrière. Et puis également un bon projet pour une enquête, parce que justement, c'était une sorte d'angle mort un peu de la consommation, où on se disait, bah voilà, là, il n'y a rien, et c'est peut-être l'occasion d'aller comprendre un peu ce qui se cache derrière. Et puis, surtout, c'est également un produit qui est en ce moment un peu décrié, parce qu'il y a des enjeux écologiques, il y a des enjeux de qualité, de santé animale, etc. Donc,
justement, je ne connais pas les problématiques par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un peu décrié à ce sujet?
Alors, en fait, il y a deux ou trois grands sujets principaux. Tout d'abord, il y a un vrai problème écologique autour du Cachemire, qui est en fait dû au fait que aujourd'hui, comme je disais, 90% des chèvres sont en Mongolie intérieure. Ouais. Le problème, c'est qu'en fait, les chèvres sont maintenant de plus en plus nombreuses. On a eu en fait une explosion de consommation de Cachemire au cours des 30 dernières années. Les chèvres sont passées disons que la population d'animaux en Mongolie, d'animaux domestiques, est passée de 20 à 80 ou à 70 millions ces dernières années, donc ça a explosé.
Ah oui.
Donc maintenant, il y a trop de chèvres qui mangent l'herbe dans la steppe et qui provoquent une désertification accélérée de la Mongolie.
Ah.
Et donc, c'est déjà pas mal le désert, parce qu'il y a le désert de Gobi, voilà,
oui,
mais
il est présent,
en fait, les prairies vont quand même. Enfin, il y a quand même des végétaux, et c'est tout un écosystème qui était assez équilibré jusqu'à maintenant.
Ouais, puis donc les chèvres. La petite parenthèse aussi sur la Mongolie, c'est que le problème de la Mongolie, qui a des steppes à perte de vue, c'est connu des steppes parce qu'en fait la terre est tellement pauvre qu'elle ne peut même pas faire pousser autre chose que ce soit l'agriculture ou des forêts ou des arbres, et que le peu de végétation qui pousse, c'est de l'herbe. Et je sais que en particulier les populations de chevaux aussi sont un problème. Alors même si maintenant ils ont tendance à décroître parce qu'on a des chevaux juste parce qu'il y a quelqu'un qui a de l'argent et que ça fait stylé d'avoir des chevaux dans la steppe, le problème des chevaux, c'est que ils ne coupent pas l'herbe, contrairement aux chèvres, ils arrachent les racines. Et ça, c'était déjà
c'est exactement le ce que font les chèvres aussi, en fait, effectivement.
Ah ouais?
Contrairement aux moutons et aux vaches.
Tu vois, j'avais les moutons. D'accord, les chèvres font pareil que les chevaux. Arrache, en fait, ça tire et du coup, ça arrache la racine, ce qui fait que l'herbe ne repose pas derrière. Ok.
Exactement.
Donc, tu as vraiment ce problème écologique.
Voilà, et en fait, aujourd'hui, on a des tempêtes de sable qui tombent sur Pékin de plus en plus souvent parce que le désert se rapproche.
Ah.
Donc, Il y a un vrai problème écologique et la Chine, elle l'a compris parce qu'elle a commencé à construire une grosse barrière verte. C'est en fait, ils ont planté des millions et des millions d'arbres aux portes du désert de Gobi pour essayer d'endiguer un peu ça. Donc globalement, on a un vrai, non, vraiment, c'est le plus gros projet écologique du monde quasiment. Alors bon, c'est très décrié pour plein de raisons, mais globalement, c'est ça. Pas loin, ouais, ouais. Non, mais voilà, le premier problème donc, est écologique. Il y a trop de chèvres et donc il y a un surpâturage et une désertification de la Mongolie et de la Mongolie intérieure. Ça, c'est le premier problème.
Okay.
Le deuxième enjeu, c'est les enjeux de santé animale. Il y a en fait des reportages qui sont sortis c'était l'année dernière, ouais. Qui ont été faits par la PETA, la Société de défense des animaux. Qui est international, je crois, ouais. Et qui ont montré en fait qu'il y avait de la maltraitance maltraitance animale dans le Cachemire, donc ouais. Des chèvres qui sont peignées de la mauvaise manière, de manière un peu violente, et puis dans les abattoirs après, il y a des conditions un peu comme ce qu'on peut voir nous dans les images d'abattoirs okay. Avec des vidéos
c'est
de,
pas
de
les
114,
ça a tendance à perdre un petit peu le côté genre le Cachemire, oui, il a galopé dans les vertes prairies, et puis à la saison on a chevauché nos chevaux pour aller récolter la laine. Ok, ça a perdu un peu de ça là.
Voilà, il y avait ça, donc c'était très donc il y a ce problème là et en fait moi en creusant un petit peu j'ai relativisé un petit peu ce problème là parce que c'est vrai qu'il y a ces problèmes, mais en côtoyant un petit peu les populations nomades et les gens qui travaillent dans le Cachemire là-bas, j'ai l'impression que c'est peut-être, un peu comme dans toute industrie, il y a des gens qui font n'importe quoi, ouais. Et c'est pas forcément quelque chose qu'il faut généraliser. En revanche, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de santé animale bien plus important que ça. C'est qui est lié en fait à ce problème écologique, c'est qu'en hiver, comme les chèvres n'ont plus rien à manger, elles meurent de froid quand il y a des hivers un peu trop rigoureux. Et on avait par exemple, c'est ce qu'ils appellent le zoo de Mongolie. C'est quand il y a beaucoup de chèvres qui meurent, enfin beaucoup d'animaux qui meurent, ils considèrent que c'est ce fameux hiver rigoureux. Et donc, à titre d'exemple, en 2009, il y a eu un des plus grands zoos qu'ils aient connus, où il y a près de 9 millions de chèvres qui sont mortes pendant l'hiver.
Ouais, mais même plus, 9 millions il y d'animaux. Même chevaux. Et je sais que parce que moi j'étais allé en 2011 en Mongolie, il y avait en gros une énorme exode des nomades qui s'étaient entassés dans les banlieues de Ulaanbaatar. Parce que justement, quand t'es nomade et que t'es éleveur et que t'as plus rien à élever, tu rentres,
c'est terrible pour eux, c'est leur principal moyen de subsistance. Donc,
ah oui, puis moins 40, moins 50, sans rien à manger, ça va vite, hein.
C'est sûr. Mais donc voilà, donc c'est pour la santé animale, c'est important. En gros, pendant ces gros hivers-là, en 2009, il y avait en gros pendant l'hiver à peu près une chèvre ou un animal qui mourait chaque seconde, quoi. Donc ça commence à faire beaucoup.
Et du coup, quand t'as décidé justement de t'intéresser à ça, que c'était un sujet qui te passionnait, que tu trouvais exotique, et en plus ça te parlait par rapport à toutes ces valeurs actuelles, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit bon alors, où est-ce qu'elle est cette petite chèvre? Je vais aller me faire une petite session en Mongolie intérieure. Tu vas aller peut-être aussi, je sais pas, au Tibet. C'est un peu compliqué quand même le Tibet d'y aller. T'as fait quel pays? Et surtout, c'était quoi ton but? T'y allais comment? Tu dis, je vais aller rencontrer les producteurs, je vais essayer d'être à leur contact, je vais essayer de... C'était quoi en fait? C'est quoi le process d'une ouais. enquête? Parce que finalement, t'as écrit un livre derrière, c'est La Route du Cachemire, ou Les Routes du Cachemire, je dis pas...
Les Routes du Cachemire, oui.
Voilà, il y en a plusieurs, donc il y a une vraie envie de faire une enquête. Comment ça s'est passé? Comment on mène une enquête à travers le monde?
Alors... En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, déjà, je savais que je voulais avoir une approche assez complète et objective. Le but, c'était de montrer tous les aspects de l'industrie du Cachemire, les bons comme les mauvais, et de rencontrer un peu tous les acteurs, donc les éleveurs, les producteurs, les transformateurs, les boutiques et les marques de prêt-à-porter, etc.
Ouais.
Donc, je voulais essayer d'en couvrir un maximum. Effectivement, au début, quand on part de zéro, on se demande un peu comment commencer. Donc en fait, avant de partir, d'aller en Mongolie et d'aller, donc en gros, je suis allé en Mongolie, en Chine, donc en Mongolie intérieure, en Écosse, en Italie. J'ai essayé de voir tous les pays qui avaient des problématiques de Cachemire.
Ouais.
Et avant donc de me lancer là-dedans, effectivement, j'ai commencé des recherches. Déjà, je me suis renseigné un maximum en ligne. On a plein d'informations. Et puis j'ai essayé très rapidement de rencontrer des gens qui étaient dans l'industrie le plus tôt possible, parce que je me suis dit effectivement que c'est eux qui allaient pouvoir me renseigner. Et puis en fait, ce que je voulais, c'était parler à une première personne qui allait me donner deux, trois autres contacts et donc parler à d'autres personnes et de fil en aiguille pouvoir remonter un petit peu comme ça le fil pour rencontrer un maximum de personnes. Donc moi j'étais à Paris, je suis allé voir quelques personnes à Paris qui faisaient du cachemire, j'ai appelé un peu autour de moi dans mon réseau, est-ce que vous connaissez des gens, etc. Et en fait très rapidement, c'est un monde qui est pas si grand que ça, donc les acteurs se connaissent. Et donc quand j'ai commencé à avoir un
maillage,
un aperçu un peu complet, je commençais à identifier un peu les gros sujets, l'écologie, la santé animale, les enjeux de qualité qui sont hyper importants là-dedans, parce qu'il y a des problèmes de fraude et de qualité assez importants aussi. Quand j'ai vu ça et que j'ai pu identifier quelques acteurs, j'ai décidé de partir en Mongolie avant même d'avoir un truc complètement ficelé. Au bout d'un moment, je me suis dit bon, faut que je parte parce que sinon je pourrais préparer le truc pendant des heures et des heures et des jours. Donc je suis parti là-bas. Et je savais que c'était la Mongolie qui allait constituer le cœur vraiment de l'enquête, parce que comme je disais, il y a 90% du Cachemire qui est produit là-bas. Et puis également, comme je voulais faire de cette enquête, enfin faire une enquête un peu sur un mode de récit de voyage, la Mongolie est un
glam.
Qui fait rêver, voilà, c'est glam et c'est sympa.
C'est glamour dans le sens où effectivement, il y a ce côté aventure, il y a ce côté bout du monde. Je prends
exactement,
mon temps.
Exactement. Ben c'est ça en fait, c'est un produit qui fait rêver, le Cachemire, et donc je voulais essayer un peu d'aller voir ça. Et la raison pour laquelle je voulais faire ça sous une forme de récit de voyage, c'est que le but de mon enquête, c'est pas de faire un manuel d'économie hyper technique et de faire une thèse universitaire sur le sujet. C'était vraiment de me dire, je veux, si on veut découvrir des choses sur le Cachemire et faire apprendre des choses aux gens, il faut que ce soit accessible par le grand public et il faut que ce soit sympa à lire. J'aurais pas voulu écrire un livre que ça m'aurait emmerdé de lire.
C'est plutôt une bonne punchline pour commencer.
Exactement. Et c'est un sujet qui s'y prêtait parce que, comme je disais, je suis allé donc en Mongolie intérieure, en Écosse, dans les Highlands, en Italie, au pied des Alpes, pour aller rencontrer des producteurs, etc. Et donc, j'essaye d'emmener un peu le lecteur avec moi sur les routes du Cachemire, justement, pour essayer de comprendre tout ce qui se passe. Et puis, je pense qu'aussi, quand on incarne un peu plus le sujet, on dépasse juste les idées, les concepts, juste des chiffres.
C'est du ressenti.
Et on vit plus le truc, quoi. Et donc,
justement,
emmène-nous
en Mongolie. Tu dis, bon, alors, c'est parti, je vais en Mongolie, je prends un billet pour Ulaanbaatar. J'arrive, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, donc j'arrivais, j'avais en gros
Quelle époque?
J'y étais alors je suis parti entre juin et juillet, donc c'était juste après la récolte du Cachemire, qui se fait au mois de mai. Donc toute l'industrie du Cachemire était vraiment en effervescence. C'est le moment où les usines tournent, tout s'active. Et avant le Nadam, qui est la fête nationale, où à partir du moment où il y a cette fête nationale, le pays s'arrête un peu. Donc j'étais entre les deux, c'était un bon moment pour ça. Et donc, en fait, sur place, comme je disais, j'avais un peu prévu des choses, mais pas tellement non plus. J'étais parti donc je savais que j'allais rencontrer quelques personnes, mais j'avais gardé pas mal de place et de temps disponible pour m'adapter, pour rencontrer des gens. Et c'est vraiment, pour moi, ça a été une bonne stratégie parce qu'en fait, la plupart des gens que j'ai rencontrés, des aventures que j'ai vécues, sont faites. Un peu au débeauté, de manière improvisée, j'ai pu tout s'est plutôt bien goupillé, j'ai eu de la chance, et puis effectivement, comme je disais, comme le monde du Cachemire là-bas, c'est un petit monde, rapidement on peut rencontrer un peu des gens, mais ma priorité en fait, c'était vraiment d'aller rencontrer les éleveurs, les nomades, et donc très rapidement.
Et comment tu fais? Non, parce que là tu me dis j'ai fait ça concrètement, je suis dans Ulaanbaatar. Déjà, tu sors de ton building communiste, parce que j'imagine qu'il y avait moyen que, en fonction, ça dépend. Il y a des auberges, mais c'est plutôt du gros bloc soviétique, avec des murs de 4 mètres d'épaisseur, enfin, ça dépend d'ailleurs, mais pas toujours bien chaud. Et tu sors dans la rue. Moi, je connais Ulaanbaatar, c'est pas la ville la plus glam du monde, c'est plutôt poussiéreux, c'est potentiellement c'est pas toujours bitumé. T'as rencontré des gens qui t'ont dit c'est plutôt dans cette zone-là, ils t'ont mis sur une carte les zones où il y avait des éleveurs, on t'a filé un numéro de téléphone parce qu'ils ont quand même des petits Nokia, des trucs, ils ont quand même des téléphones. Comment ça s'est passé? Moi ce qui m'intéresse, bâtiment, qu'est-ce qui se passe quoi?
Effectivement, c'était un peu ça au début. En fait, j'appréhendais un peu. Je me suis dit, ça va être comme ça, mais je sais pas où je vais. Enfin, je connais pas le numéro de téléphone d'un éleveur là. Comment je fais?
C'est ça.
Et en fait. Il ne faut pas perdre de vue qu'en Mongolie, les deux tiers de la population sont des nomades et des éleveurs. Donc, en fait, quand on parle à quelqu'un, il a forcément un cousin, un oncle, un frère, comme ça, qui est éleveur. Et donc, dès le premier jour, vraiment mon premier jour sur place, je suis arrivé, mon avion a atterri le matin. Le soir même, j'avais déjà au moins 3 contacts potentiels d'éleveurs, de personnes.
Mais de d'où? Tu les as sortis d'où? T'as rentré, c'est qui? C'est le chauffeur de taxi? C'est le mec à l'auberge? C'est quoi?
Bah, alors, tu rigoles, mais le mec à l'auberge, donc je me suis mis dans une auberge, la fille qui tenait l'auberge était issue d'une famille d'éleveurs et son mari était un gros éleveur de la région, enfin d'une des régions dans le Gobi, et c'est entre autres avec elle que j'ai pu aller me rendre dans le sud, dans le désert de Gobi, pour aller voir un des éleveurs, son mari, et puis qui m'ont emmené faire un tour dans le désert de Gobi à plein d'endroits. Donc, un premier truc, c'était effectivement en parlant avec les gens. En fait, c'était la dynamique que j'ai vraiment aimé dans ce voyage, c'est que comme j'étais là pour une enquête, il fallait collecter des informations. J'avais vraiment une sorte de curiosité exacerbée. J'avais un peu peur. J'appréhendais. C'est la première fois que je voyageais longtemps seul comme ça.
Ouais, ok.
Et j'appréhendais un peu les rencontres, le fait de pouvoir oser aller rencontrer des gens, récupérer de l'information. Et en fait, justement, en réussissant à me mettre dans ce mode-là, j'allais parler à plein de gens et j'étais hyper curieux. Et donc, il y a eu ça. Et puis, par exemple, au moment où je sors de l'avion, j'arrive à Oulan-Bator, je tombe sur la place principale, la place Soubatar, qui est leur grande place au milieu d'Oulan-Bator. Il y avait un festival de musique traditionnelle asiatique, il y avait tous les pays d'Asie qui étaient venus faire des démonstrations. Et puis je tombe sur un type qui était un Français, je vois qu'il avait un petit badge avec son nom écrit en français, mais habillé en tenue traditionnelle. Et les gens se prenaient un peu en photo avec lui, donc je me suis dit, ah, c'est marrant, les gens, ça doit amuser les Mongols de voir un Français habillé en tenue traditionnelle, donc je vais lui parler. Et en fait, c'était un Français qui habite là depuis des années, qui est une superstar parce qu'il a fait du cinéma en Mongolie, qui est un grand pro de l'instrument traditionnel, le morinhor mongol.
Ah, énorme.
Et donc en fait, je lui parle comme il est français, on parle, etc. Et bah lui, ça fait des années qu'il était là, il a pu me parler de la culture mongole, me faire rencontrer des gens, etc. Donc,
énorme.
Dès le premier jour, parce que je m'étais dit, allez, maintenant, j'y vais sans filet, il faut que je rencontre des gens parce que sinon, je ne vais pas avoir mes informations. J'ai pu rencontrer des gens. Quelques jours après, je pouvais partir dans le désert pour aller rencontrer des éleveurs. Et puis, alors là, évidemment, je raconte les rencontres un peu amusantes qu'il y a eu sur le moment. J'avais effectivement aussi prévu des choses. J'avais pris contact avec une association qui s'appelle Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, qui essaie de développer du cachemire durable en Mongolie.
Ouais.
Et donc, eux, j'ai pu faire une partie également de mon temps dans le désert de Gobi et dans la steppe, grâce à eux, en allant voir des éleveurs qui essayent de mettre en place des initiatives de cachemire durable. Donc voilà, c'était une moitié de prévu et une moitié d'imprévu qui se sont hyper bien goupillés pour aboutir à ça.
Et comment tu vas dans le désert de Gobi? T'as pris les vannes russes, là, les gros vannes russes, ou parce que il y a pas de train,
exactement.
Là, hein, y a rien pour se déplacer, c'est que du gros van russe. Et il y a pas de train. Il y a le transsibérien, mais il y a pas 50 arrêts, quoi. C'est pas un RER.
Non, c'est ça, c'est ce que tu dis. J'ai pris les fameux vannes. Alors, c'est amusant parce que quand on en parle, quand je parle avec des gens, ils me demandent si j'étais à cheval dans la steppe en train de traverser. Alors, faut effectivement se rendre compte que quand il y a 500 km à faire dans la journée, on va pas prendre son cheval pour.
Non.
Mais effectivement, ces espèces de gros vannes russes qui sont à la fois hyper résistants et qui en même temps tombent tout le temps en panne.
Mais qui se réparent avec un coup de marteau, et ça, c'est plutôt utile quand
ouais,
tu es.
Ouais, ça, c'est sûr, pratique. Exactement.
Hein, quand la mécanique, elle est simple. Et c'est vrai que les routes, c'est des grands sillons. En fait, les mecs, c'est pas des routes. À partir d'un moment, ils suivent les sillons du mec qui l'a fait avant, qui l'a encore fait avant. Et
ouais,
des fois,
assez,
tu vois,
marrant,
t'as des 4 voies, mais c'est des 4 sillons des uns à côté des autres.
C'est marrant de voir cette route. Au début, on sort, il y a une voie avec du bitume. Puis ça devient un petit chemin de terre. Puis ça devient quelques pistes. Puis ça devient plus rien. Et puis. Et d'ailleurs, j'étais fasciné par la capacité. Donc, j'avais pris comme je parle pas mongol ni russe ou chinois, ce qui pourrait aider là-bas. J'avais une interprète et un chauffeur, parce que sinon on se perd complètement là-dedans. J'étais sidéré par la capacité du chauffeur à se retrouver sur les routes du désert, alors que, enfin, franchement, moi, je voyais des cailloux après des cailloux après
entre
des
cailloux et un autre cailloux. Il n'y a pas une grosse diff, quoi.
Ouais, et c'était sidérant. Surtout que il faut vraiment se rendre compte que une fois qu'on sort de la ville, quand on est dans le désert de Gobi, quand on est dans les steppes, c'est des immensités à perte de vue. On a des paysages. Enfin, on est vraiment dans une sorte de vertige horizontal où on a en fait à perte de vue des steppes qui se ressemblent, un bout de désert qui change un petit peu. On passe du vert au au jaune, vert, un peu d'ocre parfois, etc. Mais globalement, on est complètement perdu, on perd nos repères.
Donc on dit désert souvent en France, ben l'image un peu qui vient, mentale qui vient, c'est un peu le désert du Sahara. Là, le désert de Gobi, c'est quoi? C'est plutôt de la roche et de la poussière, c'est de l'herbe rase.
C'est pas du tout comme le désert du Sahara, en tout cas pas dans la partie où j'ai été. C'est effectivement en fait, c'est un sol qui est très caillouteux, donc il y a un côté jaune, presque un peu ocre, et avec des petites pousses d'herbe un peu partout. Par endroit, alors ça peut varier, de temps en temps c'est des petits buissons, de temps en temps c'est un peu d'herbe, mais ce qui est assez fascinant, c'est que quand on regarde au loin, on a l'impression que c'est vert. On voit la steppe un peu verte au loin, okay. En fait quand on regarde sur ses pieds, c'est complètement jaune et c'est que du caillou. C'est qu'en fait dans la distance, un peu comme quand on regarde l'horizon et que c'est bleu parce que toute l'ozone finit par donner cette couleur bleue, bah là pareil, quand on regarde au loin, on a l'impression que c'est vert, et puis en fait quand on regarde à ses pieds, c'est complètement le désert. Et on s'y trompe pas, quand on voit au loin dans le vert une voiture qui passe, bah il y a une traînée de poussière qui vole parce qu'en fait elle est sur les cailloux. Donc effectivement c'est un semi-désert, et alors parfois c'est complètement désertique, il y a rien du tout, il y a même pas d'herbe, mais souvent effectivement c'est des steppes, il y a ces différentes herbes. D'ailleurs c'est marrant parce que un des éleveurs avec qui j'ai été me montrait un peu les différents brins d'herbe. Il me prend un petit brin, donc on était avec les chèvres, etc. Et il me dit ça, good milk. Je dis ok, donc ça c'était du ça c'est apparemment l'herbe qui permet de faire plus de lait. Là il me dit que c'est une herbe pour meat, donc hop, ça c'est l'herbe qui apparemment donne plus de viande. Et là il m'en montre, il me dit celle-là, cachemire. Donc je sais pas si c'est aussi simple que ça, si c'est vraiment la recette magique, mais c'était assez marrant parce que encore une fois, toi tu vois des cailloux et puis tu vois des brins d'herbe, mais globalement l'éleveur il sait où il va aller faire paître ses chèvres et ses moutons.
Qu'il a besoin pour tel troupeau et telle espèce, etc. Ouais, c'est comme, c'est marrant, ça me fait penser au parallèle avec les Inuits.
Ouais.
Les Inuits, le mot neige n'existe pas, ni glace, parce qu'en fait pour eux c'est leur décor. Il y a pour chaque moment de cristallisation ou de style de neige qu'il va y avoir, c'est un nom à part entière en fait. Parce que toi tu vois un truc, eux ils en voient 100 en fait. Ils en voient 100 par rapport à la densité, aux cristaux, tout ça. Et c'est assez hallucinant quand tu leur dis neige, je fais non, faut que tu utilises le truc précis. Et c'est un peu comme là en fait, genre bah non, c'est pas de l'herbe mec, c'est de la kekarabagamabandum. Tu vois, ça se trouve c'est peut-être ça. Et qui est très bon pour le cachemire. Et je m'en souviens très bien de ce nom, c'est une très bonne herbe.
C'en est une très bonne.
Donc là t'es dans la steppe. T'es dans le van russe avec ton interprète et le chauffeur, qui est encore souvent big respect aussi au chauffeur, au-delà de se repérer, pour avoir conduit faible distance avec un van russe, parce que le chauffeur, je l'avais un peu chauffé, tu vois, je suis vas-y, passe-moi le volant, que je teste. Mais c'est pas du tout plat, hein. Qu'on se comprenne, c'est pareil, la steppe, tu crois que c'est plat parce que ça se voit plat. Mais le pneu, il en quille y a que des trous partout, des ornières. Donc, il n'y a pas de direction assistée. T'as un espèce de pugilat avec ton volant en permanence. Ou pour garder la direction, c'est incroyable. Donc le mec, il t'enchaîne 8 heures de conduite là-dessus. Les mecs, ils ont des bras, c'est des mortiers, quoi.
Mais d'ailleurs, on s'en rend compte, je me rendais compte, en fait, qu'en arrivant à destination, même quand on est passager, on est crevé, en fait.
Ah, t'es crevé ?
Il y a une fatigue qui vient des efforts permanents en train de compenser les mouvements, de s'arc-bouter, de se tenir, etc. Exactement comme ce qu'on a en fait en bateau, où on a l'impression parfois qu'on fait pas trop d'efforts alors qu'on est remis dans tous les sens. Le simple fait en fait de compenser les mouvements en permanence, c'est hyper fatigant. Mais ouais, le terrain, de temps en temps, la voiture s'incline à des degrés, mais qui défie les lois de la.
Bien sûr. Et puis il y a des moments en fait, tu t'y attends pas parce que tu discutes, tu relâches la tension. Là, il y a une ornière, ça fait basculer un peu sur le côté, bam, tu te prends un coup de fenêtre, tu te prends un coup de machin. Y en a eu des comme ça. Hein. On l'a eu. Et t'arrives chez le premier éleveur, du coup, parce que j'imagine que t'étais en contact avec la nana, c'était la famille de l'auberge. Ouais. Raconte-nous un peu. Parce que là, l'idée, quand tu mènes une enquête comme ça, quand tu vas au fin fond de la Mongolie, c'est pour ces moments-là. On est d'accord qu'on vient pour ça. C'était quoi tes appréhensions? T'étais dans quel état? Comment ça s'est passé? Fais-nous rentrer dans son aventure.
Le truc, c'est que jusqu'au dernier moment, en fait, tu sais pas très bien ce qui va t'arriver. Parce que la communication est toujours un peu compliquée. Il faut voir que la plupart des Mongols parlent pas anglais ou très mal, donc même dans la traduction tu t'y perds et tout ça. Donc je savais pas trop à quelle sauce j'allais être mangé. Je savais que je partais, que j'allais voir un éleveur. Et au début en fait, on arrive à un endroit. Elle m'a dit qu'il fallait, il y avait une sorte de rassemblement. Je savais pas trop ce que c'était avant d'aller voir Manal. Donc Manal c'était l'éleveur en question. Donc je comprends pas trop ce qui se passe. Et en fait j'ai eu une chance géniale, c'est qu'en fait C'était peu de temps avant le Nadam, comme je le disais, qui est la grande fête nationale. Et dans les provinces, ils ont des sortes de petits des Nadam régionaux, des petites fêtes locales. Ils fêtent chacun à des dates un peu différentes.
Okay.
Et donc, en fait, au moment où j'arrivais, c'était la réunion un peu pour du Nadam. Donc, il y avait un peu les éleveurs du coin qui étaient là. Ah, donc, il y avait 80 personnes qui se retrouvaient. Et donc, je débarque, je rencontre Manal, que j'avais en fait déjà vu à Oulan-Bator avant, quand il était passé. Donc, je le retrouve. Et avant de se retrouver dans ces tentes, d'aller dans la yourte, dans le campement qui était à une cinquantaine de kilomètres un peu plus loin, il y a ce fameux rendez-vous pour le Nadam où on a donc le Nadam en général, il y a des courses de chevaux, de la lutte, etc. C'est un peu la fête nationale. Et donc là, j'assiste à une course de chevaux de quelques chevaux locaux qui se font ça. Donc il y avait une trentaine de chevaux qui courent. Alors des chevaux, comme tu venais de décrire la route qui était complètement inégale, là c'est des chevaux qui essayent de pas se péter les chevilles sur le qui courent à toute blinde dans le désert. C'était assez impressionnant. Et donc il y a ce petit moment là il y a une cérémonie chamanique autour de l'ovo, qui sont les petits hôtels, tu vois, les cairns qu'il y a dans le désert. Oui. Donc moi, j'ai une chance incroyable. Je me retrouve vraiment immergé complètement dans la fête traditionnelle, les coutumes locales. Donc, c'était assez intimidant aussi.
Ouais, tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi dire.
Voilà, et on est baigné complètement dedans. Donc, moi, j'étais ravi parce que ça m'en met plein les yeux. J'étais intéressé au Cachemire, mais toute la culture, toute la compréhension du pays et de ses populations était hyper importante pour moi. Parce que, entre autres, l'enjeu du Cachemire là-dedans, c'est qu'il y a un vrai déclin du mode de vie traditionnel nomade, avec ces nomades qui rentrent dans des spéculations autour du Cachemire, etc. Donc, c'était hyper intéressant de voir le cœur de cette culture. Et après, de pouvoir partir avec Manal. Donc, une fois qu'on avait fait toute cette fête, les gens, donc voilà, font la fête. Il y a une sorte de barbecue mongol où ils mettent des morceaux de chèvre dans un gros pot en métal avec des pierres chaudes pour le faire cuire. Et tout, ben voilà, il y a plein de moments assez fabuleux comme ça. Et après, on finit enfin par rentrer avec Manal jusqu'à son campement. Et c'est là que j'ai vraiment découvert le quotidien un peu des nomades. Donc, on arrive. Donc, les nomades, comme tu as pu le voir, donc, vivent dans des yourtes. Donc, eux, en gros, ils vont se déplacer au fil de l'année pour accompagner leurs troupeaux, pour aller les faire paître un peu partout. Et donc, on rentre dans ces yourtes. Et c'est fascinant parce que de loin, on voit une sorte de petit chapiteau blanc, trois petits îlots comme ça, perdus dans un océan. On arrive, et puis à l'intérieur, c'est un peu comme la tente d'Harry Potter où tu rentres dedans et puis tout devient 100 fois plus grand parce que tu arrives et tu as un réchaud, une cuisine, deux lits, des tas de couvertures, etc. Et il y a des trucs de partout, il y a des câbles qui pendent, tu le disais, ils ont leur téléphone. Alors moi, il y avait un petit panneau solaire avec des batteries pour recharger leur téléphone. Il y a une petite télévision qui trône, un hôtel avec des petites icônes bouddhistes, des trucs comme ça. Donc c'est fascinant, c'est hyper, hyper chargé, il y a plein de trucs. Et donc, évidemment, les nomades sont hyper accueillants. Globalement, on peut en fait se pointer un peu n'importe où dans la steppe et quand on trouve une yourte rentrée, on toque même pas. Parce que globalement, si on te laisse pas rentrer quand t'es. Si toi, tu laisses pas rentrer les gens qui sont perdus au milieu du désert, bah toi, quand tu seras au milieu du désert, qu'est-ce qui viendra t'ouvrir ta porte, quoi.
C'est ça. Et puis en fait, c'est même. Des fois, ils sont à l'autre bout de la steppe puisqu'ils sont en train d'aller dans les. Chercher, gérer leurs troupeaux. Tu vas pas toquer si t'es en train de mourir de froid, de soif, si tu rentres,
ouais,
entre
ouais,
guillemets, et voilà, on va t'accueillir. Après, t'arrives pas genre coucou.
Non, bien sûr, faut le faire avec la manière, mais.
Et d'ailleurs, t'as un truc moi qui m'a, parce que quand tu rentres dans une yourte et que t'es dans une yourte, il y a un truc qu'il ne faut pas faire, donc que j'ai fait parce qu'on m'a dit non. Parce que quand j'étais bien, moi, je sifflotais. Tu sais, j'étais content, je faisais un truc, tu sais, parce que je vais m'occuper de ça, puis je sifflotais, je fais non. On siffle pas dans une yourte. Si vous y allez, les gars. Internaute, si tu vas dans une yourte, on siffle pas. Je crois que ça attire les mauvais esprits ou il y a un truc. Enfin, ne fais pas ça. Tu t'attends d'être dehors, tout ça. Voilà.
Ouais,
voilà, petite anecdote. Donc, t'arrives là-dedans. Tu rentres dans la yourte.
Exactement. Je rentre. Donc, alors, ce qui est assez génial, c'est qu'à chaque fois qu'on rentre dans une yourte, il y a tout un petit cérémonial qui se met en place. Ils te servent des petits carrés de fromage de chèvre un peu dur, du thé au lait un peu salé. Et donc il y a tout un petit cérémonial comme ça. Et puis après, on peut entamer les discussions ou alors faire ce qu'on est venu faire. Parfois, j'arrivais chez des nomades, on était venu pour aller récupérer les chèvres avec celui avec qui j'étais. quoi qu'il arrive, on arrivait, on servait un petit verre de thé, on faisait des petites discussions 5 minutes, et puis après, on allait se mettre en route. Et donc, bah là, on arrive, on parle. Donc, moi, c'était hyper intéressant. C'est la première fois que je pouvais vraiment parler avec un éleveur qui m'expliquait un peu le quotidien. Donc, moi, j'avais un milliard de questions. J'ai pu toutes les poser. J'ai pu faire ça au fil de mes rencontres. Mais surtout, après, ce qui était vraiment amusant, dépaysant et instructif, c'était le lendemain d'aller pouvoir voir les troupeaux et de passer un peu de temps avec les éleveurs pour voir comment ça se passe. Donc,
et ça se passe comment en fait?
On emmène.
Ça, je vois un peu, mais j'aimerais bien qu'ils nous décrivent ce moment.
On emmène
où...
les chèvres.
Parce que c'est ça, en fait, il faut déconstruire l'élevage avec des hangars comme on connaît, ou avec des structures comme on peut connaître en France, où voilà, bon, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine, etc. Là, souvent, il y a quand même un petit enclos qui est souvent vide, mais ça, parce que c'est que à des moments où ils vont les rentrer pour certaines pratiques, la tonte, etc. Mais le reste du temps, c'est les gars, régalez-vous. Moi, je viens vous récupérer, vous rabattre souvent une fois par jour. Mais le reste du temps, c'est, en fait, tu parles dans la step, en fait.
Enfin... Exactement. En fait, la journée d'élevage est rythmée par quelques choses qu'il faut aller faire, c'est-à-dire on va aller emmener le matin les chèvres sur leur lieu et puis après on peut les laisser tranquilles et donc on emmène les chèvres. Souvent, en général, les chèvres vont passer la nuit autour du campement. Donc, comme ça, on peut les protéger s'il y a, je sais pas, un loup pour pas qu'elles se perdent. Donc, pendant le matin, on va emmener les chèvres paître à un endroit. Éventuellement, on va aller les emmener au puits parce qu'il faut bien qu'elles boivent. Donc, il y a des puits parfois dans la steppe. Et surtout, effectivement, le soir, moi, un des trucs qui m'a le plus amusé, c'était un moment où il fallait récupérer les femelles à traire, parce que quand les femelles viennent de mettre bas, il faut les traire, sinon il y a trop de lait, etc. Et donc, on a fait toute une sorte de partie. J'avais l'impression de jouer au rugby ou genre à la, comment ça s'appelle, l'épervier ou ce genre de truc. Il fallait laisser passer les mâles, mais pas les femelles. Il fallait laisser passer les enfants. Donc, toi, tu es en train de regarder pour savoir si c'est un pie ou si c'est autre chose, parce que tu sais pas si tu dois laisser passer. Et donc, tu fais ça pour essayer d'isoler les femelles qu'on va mettre justement dans le fameux petit enclos. Après, je me suis retrouvé effectivement à traire les chèvres. Donc, je te raconte pas la catastrophe parce que, évidemment, je ne sais pas faire.
Je suis sûr que ton taux de productivité était extrêmement élevé.
C'était génial.
Pour un mec qui n'a jamais fait ça.
J'en mettais que 4 fois sur 3 sur ma chemise.
Ah, ok, pas mal, pas mal.
Voilà, donc, une fois, voilà. C'était assez fascinant, donc il fallait tenir, on prenait du lait, et puis après, le soir même, tu vas boire ton lait, tu vas prendre le fromage, etc. Et d'ailleurs, c'est amusant de voir que le lait de chèvre, en fait, même la chèvre est à la base de tout, même leurs animaux en général, mais la chèvre, c'est vraiment exacerbé parce qu'ils en ont de plus en plus. Ouais. En gros, il faut voir pour comprendre, il y a 5 animaux en général, les nomades vont avoir. Plusieurs animaux, il y a un peu de tout. Il va y avoir des chameaux, des chevaux, des vaches ou des yaks, des moutons et des chèvres. Donc ils ont un peu de tout, mais maintenant que le Cachemire a vraiment explosé ces dernières années, les chèvres sont prédominantes dans les troupeaux. Et donc la chèvre est à la base de tout, c'est-à-dire que ils vont manger la chèvre déjà, ils mangent tous leurs animaux pour ils en font de la viande. Le cuir va être utilisé pour divers usages, le cachemire et le poil, j'en parle pas. Et après, on a effectivement le lait de chèvre qui va servir à faire du yaourt, de la crème, du beurre, de la vodka évidemment, parce que ils arrivent à faire de l'alcool avec le lait de chèvre.
Un beau gosse.
Ah ouais,
mal,
non, c'est super. Je les ai vus distiller un lait de chèvre. En gros, quand ils commencent à en faire une sorte de yaourt, ça fermente et il y a un peu d'alcool. Et en le distillant, ils en font une sorte de vodka. Alors, ils appellent ça vodka parce qu'en fait, vodka, ça veut dire juste eau de vie, quoi. Mais, mais donc, c'est un truc qui a, c'est un goût à peu près entre la javel et le white spirit. Et ce qui est assez bon. Et, mais c'est pas forcément hyper fort. C'est autour de 14 degrés ou 20 degrés, je pense, un truc comme ça. Donc, on arrive à peu près à le boire. Mais c'est pas vraiment délicieux.
Ouais, le mec qui te sort du désinfectant pour les doigts, quoi, pour les plaies.
Voilà, exactement. Ils ont leur gel hydroalcoolique, quoi. et donc après, c'est sympa. On finit la soirée en buvant des bolets de vodka et en essayant de raconter des trucs, en chantant des chansons et citant quelques joueurs de football français parce qu'ils en connaissent et donc ça brise un peu la glace.
C'est ça. Et en fait, ton ou ta traductrice. Ouais. Et parler, c'était quoi? C'était mongol anglais ou mongol français?
J'en ai eu deux. J'en ai une fois mongol français et une fois mongol anglais.
Ok.
Donc, et ça, c'est deux.
Et comment tu fais pour trouver des traducteurs ou des traductrices? Pareil, bouche à oreille?
Ouais, alors j'avais demandé typiquement l'association qui m'avait permis d'aller rencontrer des éleveurs. Je leur ai demandé s'ils avaient des traducteurs et donc ils ont réussi à me mettre en contact avec des traducteurs.
Est-ce que après t'as été dans d'autres pays que la Mongolie? Tu m'as dit que t'as été en Mongolie intérieure, en Écosse, en Italie.
En Chine, en Écosse,
comment
en Italie.
Comment s'est passé en Chine? Est-ce que c'est, parce que la mentalité est ultra différente, les gens sont différents, ou est-ce que ça, je parle de la Chine et de la Mongolie. Mais est-ce que le fait que ce soit quand même deux régions de Mongolie, même si c'est la Mongolie intérieure, il y avait des ressemblances? Comment c'était?
Alors, c'était beaucoup plus compliqué d'aller en Chine, parce que, sans surprise, ils sont un peu moins ouverts. En tout cas, c'est plus compliqué d'avoir des contacts. Et donc, j'ai eu beaucoup plus de difficultés. Autant la Mongolie, j'ai réussi à rencontrer plein de monde. C'est un pays assez ouvert. Et puis, il y a cette association française qui m'a permis de rencontrer des gens. En Chine, c'était plus compliqué et j'ai pu y aller parce que j'ai finalement réussi à rentrer en contact avec le plus gros producteur de cachemire au monde, qui s'appelle Erdos. Ouais. C'est le fournisseur d'Éric Bompard. En fait, Éric Bompard, ils n'ont pas d'usine. Ils ont, depuis le début, ils font produire leur pull en Chine auprès de ce fournisseur.
Alors là, tu sais que je suis sûr que tu dis un truc genre la Tour Eiffel à Paris, mais je ne sais pas qui c'est Éric Bompard en fait.
Ah pardon, Éric Bompard, c'est le plus gros producteur, enfin un des plus gros producteurs de cachemire français.
D'accord.
En fait, c'est une sorte de pionnier. C'est un des premiers à avoir vraiment. Il était là à la base de la démocratisation du Cachemire parce qu'il est allé en Chine et il a trouvé dans les années 80, il a trouvé cette laine dont personne parlait, enfin que personne importait, ouais. Dont il avait entendu parler. Et donc il a fait ça. Et donc aujourd'hui, Éric Bompard, c'est un peu l'image du Cachemire en France, quoi.
Ok.
C'est une des marques les plus connues dans le secteur. Et donc, j'ai pu aller voir leur producteur, qui est donc cette boîte Erdos, qui est le plus gros producteur de cachemire au monde. Donc, j'ai pu y aller. Alors là, effectivement, le voyage était un peu plus balisé, puis j'ai été resté un peu moins de temps. Donc, j'ai pu aller voir l'usine, et puis j'ai pu aller un petit peu dans les terres, dans le désert, pour aller voir une ferme. Parce qu'en fait, ce qui est hyper important de voir, c'est qu'en Chine, en Mongolie intérieure, c'est effectivement historiquement la Mongolie, mais la Chine a mis des règles drastiques et très différentes sur l'élevage ces dernières années. Quand ils ont justement vu qu'il y avait ce problème de surpâturage et de désertification, ils ont sédentarisé les nomades. Et donc en fait, ils ont mis des clôtures sur la steppe. Ils ont dit à tous les éleveurs, maintenant vous avez telle surface, vous avez le droit de sortir donc ils ont des fermes, il y a des bâtiments, les chèvres sont dans des bâtiments, et ils ont le droit de les sortir qu'à certaines périodes dans l'année, quand le pâturage n'est pas en train de se régénérer, etc. Donc c'est hyper drastique. On peut aller visiter donc ces fermes.
Après, est-ce qu'ils sont écolos les Chinois? C'est bizarre quand tu dis comme ça.
En vrai, c'est dingue, c'est que ils ont effectivement des mesures, c'est les plus drastiques sur certains trucs, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont complètement déconné et ils ont le pâturage chinois avait atteint un niveau d'irrécupérabilité qui était hyper avancé.
Ouais.
Donc ils ont fait ça. Alors ça pose plein d'autres problèmes parce qu'ils mettent des clôtures sur la steppe pour la biodiversité. C'est toujours un problème comme quand on met des autoroutes au milieu d'un terrain. Voilà,
ouais, une clôture c'est encore pire. Ouais.
Voilà. Et donc il y a d'autres problèmes, mais donc ça change radicalement le mode de vie des éleveurs. Alors ils sont en train un petit peu de faire marche arrière parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait justement certains problèmes, mais globalement le paysage nomade, éleveur, etc. Qu'on a de Mongolie est radicalement différent en Mongolie intérieure. Donc moi j'ai pu aller visiter une ferme et donc c'est beaucoup plus proche de ce qu'on imagine. Alors les troupeaux ont quand même des kilomètres et des kilomètres. Ça reste, c'est pas des trucs intensifs où ils sont dans des petits KGB. Hein.
Okay.
Mais globalement ils ont des endroits qui sont très délimités. Et ils ont des bâtiments, donc pendant l'hiver, les nomades vont abriter les chèvres à l'intérieur.
Bien sûr.
Ce qui a des conséquences sur le cachemire. Je vais pas rentrer sur
les
techniques.
J'imagine, parce que si la chèvre se caille moins, forcément elle produit moins de laine, j'imagine, pour se protéger, puisqu'à la base, j'imagine que cette laine est là aussi pour la réchauffer, et que si elle a déjà chaud, pas s'emmerder à faire pousser de la laine bien épaisse.
C'est pas aussi mécanique que ça. Il y a plein de choses qui vont avoir plein de facteurs qui vont avoir un impact sur le cachemire, l'ensoleillement, le froid, l'altitude, etc. Mais globalement, elle développe toujours du cachemire. Mais par exemple, ça permet aux Chinois de tondre les chèvres plutôt que de les peigner. En Mongolie, on peut pas peigner les chèvres, on peut pas les tondre, je veux dire, parce que si on tond et qu'on enlève le poil permanent, il suffit qu'il y ait un petit retour de froid et elles se les caillent toutes et elles meurent de froid. Si en revanche elles sont abritées pendant l'hiver, on peut les tondre. Comme ça, on récupère tout le cachemire, on n'oublie rien entre les poils. Et derrière, elles sont abritées, donc elles vont pas mourir de froid pendant l'hiver. Donc ça change un petit peu les pratiques. Derrière, ça va changer un petit peu les machines parce qu'ils récupèrent du cachemire un peu différent, etc. Donc ça a pas mal d'implications derrière. Okay. Mais bon, là, au final, pour le cachemire lui-même, pour le pull que tu vas porter, la différence n'est pas énorme. Mais donc voilà, donc la Chine, effectivement, le paysage est très différent, les pratiques sont différentes.
Est-ce que justement sur cet aspect, je trouve ça super intéressant, intéressant, pas forcément bien hein, quand je dis intéressant, mais de se dire cette même région a une évolution différente de par les politiques qui les pays en place. Donc t'étais dans une culture en Mongolie, bah très, tu rentres dans la yourte. Vas-y, tu sais quoi, vas-y, je te présente à mon cousin qui va te parler, il va te présenter à son frère qui lui connaît un gars, etc. Et finalement, c'est assez fluide, c'est à l'ancienne, mais ça marche très bien. À quelque chose de beaucoup plus structuré, rigide, réglementé. Et comment ça se passe même, du coup, quand tu interagis avec ces mêmes peuples qui ont été forcés de changer leur façon d'être au quotidien aussi? Est-ce que ça a un impact sur qui ils sont?
Et ce qui est intéressant, c'est que la comparaison est difficile à faire pour moi parce que justement, en allant là-bas, moi, j'ai rencontré, en allant en Mongolie intérieure, j'ai rencontré quasiment aucun Mongol parce que c'était des Han, en fait, de manière générale, la Chine a une politique de on va dire de colonisation un peu auprès des minorités et d'assimilation. On le voit auprès des Ouïghours, auprès des Mongols, c'est un peu la même chose. Récemment, j'ai cru voir qu'en Mongolie intérieure, l'apprentissage de la langue mongole s'arrêtait. Enfin, donc il y a pas mal de dans les usines que j'ai visitées, c'était surtout des.
Ouais, la petite parenthèse, c'est que les Han, c'est l'ethnie grandement majoritaire en Chine, et c'est vrai qu'ils sont assez réputés pour se sentir l'ethnie supérieure génétiquement, tout ce que tu veux, tout ce qui peut aller derrière, et d'avoir un certain mépris pour les autres ethnies qui sont un peu leur sous-fifre. Et pourtant, je crois qu'en Chine, il doit y avoir des centaines, hein, c'est même pas des dizaines, c'est des centaines d'ethnies différentes. Ouais, qui sont des minorités. Je crois que le seul privilège qu'ils ont, à défaut de se faire mettre dans des camps de concentration quand c'est un peu en fonction des régions, bisous aux Ouïghours, ouais. C'est que les ethnies ont le droit, contrairement à la politique de l'enfant unique des Han, donc des Chinois, de pouvoir faire eux trois enfants, dans l'idée de se dire que au moins ton ethnie disparaît pas, etc., etc. Parce que l'idée de l'enfant unique, c'est pour réguler une population, alors que les minorités sont déjà par essence minoritaire. Mais à partir de là, parenthèse fermée, ils aiment bien dire « Sympa chez toi, bon on va venir, et toi tu vas te mettre là et nous on s'occupe du reste. » Donc forcément, Et tu disais dans les usines…
Ouais, en fait moi la population que je voyais c'était au final assez peu de Mongols parce qu'ils sont en général un peu plus loin, on va dire, dans les terres, dans le désert de Gobi. Donc même la ferme que je suis allé voir, c'était les éleveurs, n'étaient pas Mongols. Donc, j'ai pas forcément pu facilement faire cette comparaison, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que même en Mongolie, ils ont une sorte de un peu de double discours sur cette modernisation et ce changement sur le mode de vie. En fait, à la fois, il y a pas mal de Mongols qui se plaignent un petit peu du déclin du mode de vie nomade. Et donc ils disent c'est terrible parce que on a à cause du surpâturage, à cause des gens qui maintenant ont des 4x4 au lieu d'être avec sur des chevaux, on a les téléphones, il y a plein d'éléments qui font que le mode de vie nomade se perd un petit peu.
Et c'est quoi, mais paradoxalement, c'est quoi en fait qu'il trouve dommage quand tu dis oui il y a tout ça, mais c'est quoi qu'il trouve dommage?
Par exemple, les éleveurs ont de moins en moins de chevaux. Et les chevaux sont de moins en moins. En général, c'est des chevaux qui vont être semi-sauvages. Et ils disent, par exemple, les femmes ne montent plus à cheval parce que les chevaux sont de moins en moins domestiqués et faciles à monter. Ils ont plus de chevaux. Ils me disaient pour quand, par exemple, il y a des touristes qui passent rencontrer des gens, ils peuvent plus les faire monter. Il y a moins de tous ces animaux traditionnels parce que maintenant il y a presque plus que des chèvres. Et donc ils trouvent un peu qu'il y a une partie de leur identité qui était à travers tout ce mode de vie qui se perd.
C'est ça.
Mais ce qui est paradoxal, c'est que c'est ces mêmes personnes qui me disaient ça et qui avaient un 4x4 à côté pour pouvoir se déplacer, qui ont le téléphone, ils profitent de la 4G qui passe parfois dans le désert. Ils ont également, ils ont WhatsApp, ils pont. Alors pas partout, hein, je te rassure. Mais...
D'accord.
Et c'est également eux. Moi, il y en a un qui me disait ça, Manal, l'éleveur que j'ai rencontré dont je parlais au début, qui me disait c'est terrible, notre mode de vie se perd, mais il a 2000 chèvres, ce qui est énorme pour les pour des éleveurs. Il avait 1000 ou 2000 chèvres. Et en moyenne, les troupeaux sont plutôt autour de 300 ou 600 chèvres. Et ils contribuaient, c'était un des plus gros éleveurs de la région, ils contribuent à cette désertification, à ce surpâturage. Donc, à la fois,
C'est un peu comme tu dis, c'est un peu comme. Alors, je sais pas si la comparaison est bonne, mais c'est un cocaïnomane qui prend de la coke et c'est de la merde ce truc, tu vois. Mais qui n'arrive pas, en fait, par l'attraction. De ça en fait dire il sait que c'est mauvais mais il arrive pas à dire non parce que ben je peux comprendre quand t'as vécu ta vie sans eau courante avec peu de commodité tout à coup il y a de la modernité qui facilite ta vie au quotidien ton lifestyle c'est dur de dire non en fait c'est
Puis surtout en particulier aujourd'hui les jeunes veulent de moins en moins être éleveurs et vivre dans le désert mais en même temps c'est parce que il faut voir qu'effectivement c'est une vie qui est extrêmement difficile être par moins 40 degrés en hiver dans le désert on peut comprendre que les jeunes qui maintenant ont un téléphone qui voient le confort de la civilisation occidentale ou ces trucs là on peut comprendre qu'ils soient plus contents d'aller se mettre dans les murs à Ulaanbaatar pendant l'hiver. C'est hyper difficile. Mais donc, c'est intéressant de voir ce double discours. Et parfois, une partie des nomades voit d'un œil plutôt bon ces Mongols de Mongolie intérieure qui ont été sédentarisés en se disant qu'eux, ils ont la chance de ne pas être dehors par moins 40 pendant l'hiver.
Ah.
Donc, mais encore une fois, il y a un double discours et souvent par les mêmes personnes parfois.
C'est quoi le goût personnel que ça t'a laissé en bouche de voir ça, en fait en plus d'avoir vu un peu deux visages, d'une Mongolie qui s'est sédentarisée, occidentalisée, et d'une autre qui est en train de changer, et de... Tu vois, je pense que quand tu t'imprègnes de l'énergie des gens, tu sais, parce que des fois, il y a les mots, mais il y a l'énergie qu'il y a derrière, tu vois.
Ouais.
Ça t'a laissé quoi, toi, en bouche?
Moi, je suis assez optimiste sur cette partie mode de vie et identité. Je pense que il y a une période d'adaptation qui va être nécessaire, mais globalement, j'ai vraiment rencontré des gens qui étaient d'une simplicité, d'un naturel assez déconcertant. Et qui avaient l'air assez, mine de rien, heureux dans leur mode de vie. Ils pouvaient avoir des conditions difficiles, mais ils ne se plaignaient pas. Et je pense que ces changements qu'ils vont avoir vont leur apporter pas mal de facilité. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, maintenant, ils ont un téléphone qui leur permet d'avoir, je ne sais pas, les prix du Cachemire plus facilement accessibles ou de se localiser par rapport aux autres éleveurs. Où ils vont avoir des choses qui vont être facilitées. Et ça va être vraiment quelque chose de positif, et ils avaient l'air d'être contents de ça. Le vrai problème qui va se poser, c'est effectivement cette question de Cachemire et de surpâturage, mais sur l'identité et le mode de vie, je pense que s'ils arrivent à trouver un équilibre, ce serait intéressant qu'ils arrivent à garder cette identité, parce que c'est une sorte de monument culturel, tu vois, immatériel, et si on arrive à préserver ça, c'est génial, parce que c'est un peu une preuve qu'il existe d'autres systèmes que nous, d'autres habitudes. Et moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié l'énergie, et les émotions et la simplicité qui dégageaient par cette rencontre, par tout ce que j'ai pu voir.
Et justement, quand tu vois tout ça et que tu t'immerges dans cette enquête, à travers la steppe, quand tu vas dans l'usine, je sais pas, en Écosse ou dans les lieux en Écosse ou en Italie, ça te fait quoi en fait? T'as un autre regard? Quand c'était en Écosse, c'était des élevages également ou c'était du traitement de la laine?
Alors c'est uniquement la transformation effectivement. Il y a pas de chèvres en Écosse. Moi quand j'ai commencé mon enquête, je pensais que l'Écosse était un pays du Cachemire parce qu'ils avaient des troupeaux. En fait, pas du tout.
Ils ont une expertise sur la laine parce qu'à la base ils ont des moutons, ils ont cette expertise là. Mais en fait, ils la posent.
Exactement.
Pas...
Ils ont une industrie textile qui marche bien et donc ils ont réussi à faire du bon Cachemire. Et eux, ils y sont depuis plus de 200 ans. Je suis allé visiter une usine qui a été fondée en 1797, un truc comme ça. Enfin, c'est extrêmement vieux. Et donc, eux, c'est des experts dans la transformation du Cachemire, des trucs hyper fins, des réglages hyper pointus. Donc, j'étais allé voir ça. Mais ce qui était intéressant, justement, sur la question que tu posais un peu au début de mon regard quand je suis arrivé là-bas après avoir vu cette Mongolie, c'est que je me suis retrouvé à faire des parallèles entre ces endroits, alors que c'est des pays que tout oppose. L'Écosse, c'est une île toute verte au milieu de l'eau. La Mongolie, c'est un désert complètement enclavé. Donc c'est complètement différent. Et en fait, on se retrouve à faire des parallèles. Et c'est ça que moi, j'ai vraiment aimé avec cette enquête, c'est ce fil conducteur du Cachemire m'a forcé en fait à faire des contorsions intellectuelles et à rapprocher des choses qui ne l'auraient pas été naturellement. Et donc j'ai pu voir en fait les grandes prairies et les highlands écossais, des paysages qui étaient très différents, mais que d'une certaine manière on arrivait à rapprocher les prairies écossaises avec les steppes mongoles, l'Écosse qui est également qui se laisse pas faire en termes de paysages inhospitaliers avec ses highlands et ses montagnes acérées perdues dans la brume. L'un comme l'autre ont une tendance à manger un peu trop de moutons farcis et de trucs comme ça. Donc, tu vois, c'était intéressant d'aller creuser un peu la comparaison, encore une fois, d'exacerber un peu cette curiosité en allant chercher du Cachemire, donc en Écosse. Mais donc, effectivement, après, j'étais surtout effectivement allé voir des usines, des transformateurs avec des gens qui font donc le Cachemire écossais qui est réputé pour être un des meilleurs Cachemires au monde parce qu'ils ont une certaine expertise
sur le traitement. De la matière.
Et ce qui est fascinant, alors une des raisons pour lesquelles, en tout cas une des raisons qu'ils avancent pour ça, pour lesquelles ce cachemire écossais est aussi bon apparemment, ce serait parce que c'est avec le même ingrédient qu'on fait les bons cachemires et les bons whisky. C'est l'eau.
J'allais dire, ils mettent du whisky dedans. Non, en fait, non.
Alors, ils ne mettent pas du whisky dedans, mais apparemment, de la même manière qu'ils ont du très bon whisky parce qu'ils ont une eau extrêmement pure, ils utilisent l'eau dans le processus de transformation du cachemire. En fait, plutôt que de mettre des produits chimiques, des adoucissants pour le laver, pour l'adoucir, etc., ils utilisent l'eau de leur montagne qui est particulièrement pure pour en faire un très bon cachemire. Alors, après, est-ce que c'est une belle histoire qu'ils racontent pour un peu le storytelling de leur cachemire, ou est-ce que c'est vrai? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. En tout cas, moi, j'aime bien les belles histoires. Donc,
t'as pas
bien
pu accéder dans les usines?
Si, j'ai pu rentrer dans les usines. Mais okay. Après, il faut être... Est-ce que l'eau a une composition particulière qui permet ça? Je suis pas un expert, mais c'est vrai qu'ils en font un bon usage.
Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est facile? Tu vois, moi, je pense à tous les... je sais pas, les jeunes qui ont des rêves en tête d'explorer un sujet, d'aller justement enquêter sur... soit, je sais pas, la condition de la femme au fin fond de tel pays, sur les artistes de street art au Pakistan, je sais pas, il y a plein, je suis sûr, de choses sur lesquelles on a envie d'enquêter, de se documenter, d'aller explorer. Est-ce que finalement, ça reste... mais c'est vrai que quand on le dit, je trouve que c'est quelque chose de nébuleux. Je vais enquêter. Moi, je vois un truc du noir. Par où je commence? Qu'est-ce que je fais? Je m'adresse à qui? C'est le bordel. Est-ce que finalement, c'est quand même facile? Est-ce que les gens... acceptent facilement d'échanger sur finalement, bah ils sont peut-être contents aussi d'échanger sur leur thématique, sur leur activité, ou est-ce qu'ils sont très réservés, très protectionnistes, et que bah tu te transformes vraiment en Sherlock Holmes à aller un peu insister, passer par la porte de derrière parce que la porte de devant ça ouvre pas. Enfin, comment ça se passe une enquête, sans déconner, en vrai?
Alors, c'est assez variable. Déjà, tu disais, est-ce que c'est difficile? Il y a plusieurs trucs. Il y a la partie enquête, effectivement, que je vais traiter un peu en premier. Et puis après, il y a un peu la partie, on va dire, construction, rédaction de tout ça, parce que c'était aussi un gros boulot. Sur la partie enquête, ça va dépendre un peu de ton sujet et de ce que tu cherches. Le premier truc dont je me suis rendu compte, c'est que les gens adorent parler de ce qu'ils aiment. Donc, quand je suis allé voir des gens qui étaient des producteurs de cachemire, qui travaillent la matière, qui leur truc c'est de faire les tissus le plus doux possible et d'anoblir la matière et tout ça, bah ouais, ils sont super contents d'en parler. Quand tu vas voir une association de défense qui font du cachemire durable, qui essaie de protéger les animaux et les éleveurs, bah ils t'ouvrent les portes. Moi, l'association AVSF, ils ont été hyper sympas, ils m'ont fait rencontrer des gens, etc. Donc ça peut être hyper facile sous certains aspects, mais sans surprise. Si tu fais ça, tu n'auras qu'un seul côté du sujet. Évidemment, les personnes qui font mal, qui font du mauvais cachemire, ou les personnes qui si tu essaies de faire une enquête pour dénoncer des mauvaises pratiques, bah, ça ne va pas être aussi facile. Quand j'ai essayé d'aller poser des questions à des grandes marques qui font des supermarkets sweaters, comme on dit, c'est-à-dire du cachemire de supermarché, des trucs de mauvaise qualité, bah forcément, on ne te répond pas, c'est beaucoup plus compliqué. Quand j'ai essayé d'aller voir un petit peu en Mongolie les endroits où il y a les abattoirs, où il y a des endroits qui sont un peu trustés par des intermédiaires chinois, c'est des trucs un peu... c'est un peu le côté sombre du cachemire en Mongolie. Ouais. Bah, les portes sont moins ouvertes. Et effectivement, c'est moins facile. Et
comment tu fais dans ces cas-là ? Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ?
Et bah il faut insister, il faut essayer de creuser, il faut. Alors là, la difficulté, c'est qu'aussi, ça peut demander des moyens. Moi, j'étais avec avec les moyens du bord. C'était pas, j'ai pas.
Habité beaucoup d'eau.
Ouais, exactement. j'ai pas toute la production d'M6 derrière moi pour faire Capital ou Enquête Exclusive. Donc, il faut parler aux gens. Il faut peut-être essayer de filouter un petit peu. Il faut poser des questions. Et puis déjà en posant des questions aux gens qui veulent bien te parler sur les mauvaises pratiques, t'en apprends déjà beaucoup et tu comprends comment les trucs fonctionnent. Mais donc effectivement il faut essayer de creuser. Et puis et moi il y a pas mal de gens qui m'ont dit des trucs en off, c'est-à-dire que j'ai pas pu les citer. Mais voilà, ils ont pu me dire que voilà, il fallait pas croire la communication des grands groupes sur le greenwashing qu'ils font et sur toutes les pratiques soi-disant positives, etc. Il fallait pas croire les trois quarts des labels du cachemire durable qui font en fait absolument n'importe quoi, c'est des initiatives marketing, que en fait un cachemire sur trois vendu dans le monde c'est de la fraude et c'est pas du bon cachemire. Donc tu peux apprendre en fait plein de trucs. Même sans avoir des moyens énormes et sans, mais c'est plus difficile, c'est sûr.
Bien sûr.
Et les portes seront pas toutes ouvertes. Et puis voilà, effectivement, en plus surtout si tu vas dans des pays comme la Chine, c'est plus compliqué de réussir à sortir des sentiers battus.
Ah bon, je suis étonné. Voilà. qu'est-ce que ce voyage en plus qui est une quête en fait. Qu'est-ce que cette quête t'a apporté, cette aventure. Qu'est-ce que t'as apporté. Qu'est-ce que t'en as retiré à titre personnel, pas sur le thème du cachemire, mais à titre personnel.
Alors, tout d'abord, il y a des choses qui étaient vraiment sur le vécu, sur le moment. Ça m'a permis de vivre des très belles aventures, de rencontrer des gens. J'ai vraiment adoré tout ce que j'ai fait pendant. En plus de ce que j'en retire après, ce que j'ai fait pendant, donc ces rencontres, et puis également le travail. Le travail que j'ai fait, c'est-à-dire la recherche, je me suis plongé dans des livres, j'ai creusé. Ça a demandé un travail de structuration qui était énorme parce qu'au bout d'un moment, tu vois, quand on écrit un livre, on parle de l'angoisse de la page blanche. Moi, j'avais plutôt l'angoisse de la page noire. Tu vois, j'avais trop d'informations, il fallait que j'ai structure, j'avais trop de trucs, je savais pas quoi faire. J'ai dû couper des tonnes de choses. Donc, il y a eu un gros travail et c'était hyper intéressant de faire ce truc-là parce que c'était un vrai challenge, tu vois, intellectuel. Et donc, chaque partie de cette expérience. L'enquête sur le terrain, la recherche, les interviews, la structuration, et puis même l'écriture, tu vois, parce que au final, j'ai écrit un livre, c'est une aventure aussi littéraire. Tout ça, j'ai vraiment adoré ce que j'ai fait. Donc, le premier truc, c'est que j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Et c'est pas anodin quand je dis ça, c'est parce que je me suis lancé là-dedans à un moment où j'étais un peu en quête de quelque chose. C'est un peu un grand mot de dire en quête de sens, tu vois, mais de quelque chose que je voulais vraiment faire. J'avais quitté un boulot que je faisais avant où j'avais passé 4 ans dans une start-up à travailler et puis j'étais parti parce que c'était pas vraiment ce que je voulais faire, le monde de l'entreprise. Ouais. C'est pas ce que je voulais. Ouais. Et puis là, j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait vraiment, tu vois. Donc, déjà, c'était super intéressant. J'étais content d'avoir fait ça. Ah. Et puis après, bah justement, un peu lié à ça, maintenant, je me dis, c'est cool parce que quand tu passes un peu le pas, quand tu te dis allez, je me lance dans un truc que j'ai vraiment envie de faire, je sors des sentiers battus, je vais écrire un bouquin sur le cachemire, mais qui aurait l'idée de faire un truc pareil?
Pour ça que je t'ai fait intervenir. Je dis putain, y en a un qui a fait ça. Bah vas-y, viens.
Voilà. Et donc ça m'a un peu conforté dans le fait que quand on ose le faire, ça peut bien se passer, on peut avoir des super expériences. Et moi maintenant, je suis en train d'essayer d'envisager un peu la suite de ce truc-là. Je capitalise sur ce que j'ai fait. J'ai rencontré plein de monde, j'ai appris plein de choses. Je me suis prouvé à moi-même que je pouvais écrire quelque chose et que ça pouvait rendre bien et que on l'a publié. Quand tu commences à avoir des retours positifs sur ce truc-là, tu te dis c'est bon, j'ai réussi à faire quelque chose. J'ai franchi un pas qui n'était pas évident à faire et ça peut marcher quoi.
Comment tu vis, j'ai envie de te dire, est-ce que t'es plus heureux? C'est un peu bateau comme phrase, mais c'est comment tu vis le fait d'avoir basculé d'une vie où tu travailles dans une start-up, où c'est un peu stylé, que t'es plus ou moins bien rémunéré avec cet équilibre, etc., à je sais pas trop comment je vais gagner ma thune, je retourne un peu dans le côté plus de sécurité, plus de filet et cette vie de saltimbanque. Est-ce que ton bonheur, il est plus grand? Malgré le fait que tu aies moins dans ta vie, moins de sécurité, moins d'argent, moins de tout ça, ou pas, ou c'est l'inverse, où tu dis ça me fait vibrer, mais c'est dur en fait.
Bah, il y a plusieurs trucs. Il faut effectivement, juste avant, j'ai donné le truc super positif. C'est facile de, enfin, on peut y aller, ça peut marcher. C'est sûr que bah, derrière, on ne réussit pas à tous les coups. Écrire un bouquin, on ne devient pas millionnaire, sauf si on s'appelle Nicolas Sarkozy et qu'on vend 400 000 exemplaires de son bouquin, quoi.
Donc, je ne pense pas que tu aies pris le plus grand écrivain non plus français, là, Nicolas Sarkozy.
Non, mais c'est celui qui vend le plus.
C'est pas vrai.
Si, si, Sarkozy, avec son bouquin, il en vendait centaines. Non, non, je sais que j'ai pas pris le plus grand écrivain, là.
Je savais même pas qu'il vendait des bouquins, lui.
Non, non, si, bah, c'est parce que, comme il s'appelle Nicolas Sarkozy, ouais,
il
vend.
Le plus grand des commerciales, de toute façon.
Il est numéro un des ventes. Ah. Mais donc, voilà. Donc, effectivement, c'est difficile. J'ai quitté une situation qui était plus stable, plus sécuritaire. Et effectivement, moi, ce que j'ai fait, j'avais mis un peu d'argent de côté, donc ça m'a permis de me payer les voyages, le temps passé sur l'enquête. Et là, maintenant, je veux continuer un peu à faire ça, mais je vais également chercher en parallèle. Je suis en train, par exemple, là, de monter un autre projet qui va me permettre potentiellement de gagner un peu mieux ma vie à côté pour pouvoir continuer à faire des enquêtes ou des trucs comme ça. Parce que c'est sûr, il faut réussir à ménager un petit peu les deux. Mais pour répondre à ta question de est-ce que je suis plus heureux, globalement, je suis plus heureux dans ce que je fais. C'est-à-dire que je suis hyper content de faire ça. Et pour moi, c'était le truc le plus important, c'était de se dire je peux réussir à faire un truc où je suis content de le faire. C'était le premier truc. Après, le revers un peu de la médaille là-dedans, c'est que ça a été pendant pas mal de temps une aventure qui était aussi un peu solitaire.
Ouais.
Je suis parti en voyage seul. Je suis parti d'une situation où j'avais des collègues de travail, etc. Je fais des recherches chez moi, je bosse, j'écris, etc. Et ça peut être parfois un peu pesant parce qu'on est seul. C'est super bien, on est flexible, on peut bosser depuis n'importe où, on peut faire ce qu'on veut, etc. On est nomade, puisqu'on parle de nomade. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut être un petit peu plus solitaire, et ça, c'est quelque chose qui est parfois pas toujours facile. Et moi, j'ai cherché parfois à aller travailler avec des gens. J'ai pas mal de copains qui sont freelance, donc j'allais me bosser avec eux quand ils faisaient genre des retraites ou des trucs comme ça pour travailler avec des gens, parce que déjà pour soi, c'est un peu bien pour sa santé mentale. On l'a vu pendant le confinement, on n'est pas toujours très bien quand on est confiné. Et puis aussi parce qu'il y a une émulation, quoi. Quand on bosse avec des gens, on échange.
Il y a l'effet de... C'est con, mais là, pour le coup, l'effet pas chèvre, mais l'effet des moutons. Et le bon effet des moutons. C'est-à-dire, quand tu vois des gens qui courent à côté de toi, t'as envie de courir. Alors, c'est effectivement, s'il y a une falaise et qu'ils y vont, bon, bah, faut peut-être avoir la présence d'esprit de pas y aller. Mais ce que je veux dire, c'est que, pour ça que les espaces de coworking sont en train d'exploser, parce qu'en fait, comme tu dis, à force, t'es tout chez toi, faut trouver la motivation. Alors quand tu dis, putain, ils sont tous en train de taffer, bon bah vas-y, je vais m'y mettre. Et tu fais un peu moins le con. Ouais. Et je me demande si finalement l'ADN du travail, elle va pas changer vers ce côté où il y a une partie de ta vie de travail, mais même dans ton quotidien, pas sur la durée, mais dans ta journée de travail ou dans ta semaine de travail, tu vas avoir un boulot qui va te rémunérer, où ça va être un peu plus, je dirais, du pratico-pratique. Et l'autre où ça va être en fait tes petits side projects où tu vas te faire plus kiffer, où ça va être des choses qui vont plus te parler, où tu vas adorer ce que tu fais. Et je parle même pas de loisirs, je parle vraiment de ce côté où besoin d'avoir, tu sais, en quête de sens. Et je me demande si les gens, surtout ben, avec ce qui se passe, peut-être on a besoin aussi de réduire notre production. Qui dit réduire notre production, c'est-à-dire qu'il y a un moment, si tu produis moins, t'achètes moins. Et c'est peut-être aussi comprendre que ben peut-être on va gagner moins bien notre vie et qu'on va peut-être moins travailler sur des choses qui sont rémunératrices, c'est-à-dire ça sert à rien de faire un taf où j'ai énormément travaillé pour gagner plein d'argent, parce que je vais peut-être moins travailler, mais à côté je vais retravailler, mais plus sur le plaisir. Je pense qu'on est en train de redécouvrir ces dernières années le travail, comme on l'a toujours enseigné, le travail, c'est qu'on est là pour la stabilité, la sécurité et gagner de l'argent. Il n'y a jamais eu de notion de plaisir dans le travail, et maintenant de plus en plus, eh ben, c'est en train de se développer avec le côté entrepreneur, avec le côté freelance, avec le côté, voilà, je pars voyager, j'arrive en plus à la dématérialisation du travail. Et je me demande s'il y a pas, on va pas vers ça, en fait. On va pas vers quelque chose où on prend du plaisir dans le travail, on arrive à mêler les deux ou à voir non pas qu'une seule activité, mais plusieurs. Alors certains vont dire, oui, mais, moins de stabilité, ouais, mais je pense que justement, chacun y trouvera son compte. Et faut pas avoir peur aussi de vivre des phases. Tu vas te se dire, bah, t'étais dans une start-up. T'as vécu ton aventure, ton enquête avec ce livre, qui est un projet extraordinaire. Peut-être que pendant 2-3 ans, tu vas retourner dans un cadre qui va te réancrer pour te refaire tu vois, stimuler des idées et mûrir des idées dans ta tête pour repartir sur autre chose. Et je pense que les gens, ils ont toujours peur de dire, si je fais ce choix-là, je veux pas être écrivain toute ma vie. Oui, mais non, en fait. En fait,
ah,
personne te demande d'être écrivain toute ta vie. Mais hésite pas à faire un projet qui te tient à cœur. Et voilà, c'était une petite parenthèse
effectivement, hyper pertinente.
Je vois un peu se profiler à l'horizon avec à la fois le travail qui évolue dans sa matérialisation et à la fois dans l'économie et l'écologie qui commence à nous impacter au quotidien. J'aime bien finir ce podcast par deux questions traditionnelles. Si je te passe les clés de la DeLorean pour revivre un seul moment de tous les voyages que tu as fait pour mener cette enquête, ce serait quel moment ?
Écoute, sans hésiter, je retournerai dans les steppes avec les éleveurs.
Mais quel moment précis ?
Quel moment précis ? Eh bien, le moment très précis, c'était un moment qui était incroyable. Quand on a ramené des chèvres auprès d'un puits, on a activé un petit moteur qui faisait tourner le puits. Et donc là, ça fait sortir l'eau du puits, il y a toutes les chèvres qui se ruent. Et pendant quelques instants, j'étais dans une sorte de marée. Il y avait des chèvres de partout, il y avait des bêlements un peu en stéréo, j'en entendais de partout. Et les chèvres se laissaient complètement approcher parce que là, elles étaient en train de regarder, en train de boire et de se monter dessus, etc. Et j'ai une sorte de marée de chèvres, c'était assez fascinant. Parce que voilà, tu pouvais les prendre, ça bêlait dans tous les sens. Et tu étais au cœur vraiment de l'activité du nomade qui était en train d'aller faire boire ses chèvres. Ils étaient là en train de regarder ce qui se passait. C'était juste avant le moment où on a dû les rentrer pour aller les mettre dans l'enclos. Et là, t'es au milieu de ça et tu vois autour de toi des kilomètres et des kilomètres de steppe. Il y a des chevaux qui sont passés derrière comme ça, des chevaux magnifiques qui passaient sur un coucher de soleil. Enfin, c'est une sorte de condensé un peu de tous ces moments avec les nomades, avec les animaux et tout. Et moi, c'est un des souvenirs que j'ai préféré de ce moment-là. Donc, je veux bien que tu me files les clés de la DeLorean.
Eh ben, ça se négocie juste après. Pour terminer ce podcast, si tu devais résumer cette enquête, donc les routes du Cachemire, donc qui est le livre qui en a découlé. En une citation, une phrase de ta création ou une punchline, ce serait laquelle ?
Je pense que je te dirais une phrase sur laquelle je suis tombé hier, à vrai dire.
Okay.
Qui est il ne faut pas se prendre au sérieux, mais faire les choses sérieusement.
Ah, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup.
Et j'ai vraiment essayé, enfin, déjà quand tu dis que tu vas en faire une enquête sur les chefs, tu peux pas trop te prendre au sérieux parce que déjà c'est marrant.
Ça plus, c'est bien. Mais ça c'est plutôt pertinent d'en avoir conscience, tu vois.
En plus quand tu t'appelles Chevrillon, ce qui veut plus ou moins dire une petite chèvre et que t'es en train d'enquêter sur les chèvres, tu peux plus te prendre au sérieux du tout.
C'est génial. Mais t'étais voué à ça. T'étais voué, c'était ta vocation. C'était ta vocation. Et justement, je trouve ça génial comme phrase parce qu'il y a toujours quelque chose qui, encore une fois, je trouve qu'on a tendance à oublier, c'est que c'est pas parce qu'on passe un bon moment, qu'on sait rigoler, que derrière on n'est pas professionnel, efficace et que ça se passe pas bien. Au contraire.
Exactement.
Et je pense que surtout, ça c'est pour le coup, ça c'est les peuples nomades ou un petit peu qui ont des vies encore un peu traditionnelles qui me l'ont enseigné à travers mes voyages, c'est que eux ils se détendent. Tiens, ça va se passer. De toute façon, ils ont une vie dure. Donc si tu te commences à te prendre la tête, tu chiales tous les jours. Alors que si tu rigoles, potentiellement, tu vas toujours trouver une solution. Écoute, Victor, je te remercie beaucoup, beaucoup nous avoir emmené à travers le monde, à travers la Mongolie et à travers surtout cette matière très rare et très recherchée et très particulière qu'on connaît peu, qui est le Cachemire. Internaute, si tu veux en savoir plus sur cette enquête, ben, je t'invite à aller acheter directement le livre de Victor, qui est de toute façon, le lien sera dans la description du podcast qui s'appelle donc Les routes du Cachemire. Et avant de nous quitter, n'hésite pas à... Tu sais, tu peux nous faire des dédicaces en story, pas forcément de quand t'as écouté le comment ou dans quelles conditions t'as écouté le podcast, comme je demande souvent, mais peut-être que si toi t'as du Cachemire, montre-nous ce que t'as comme étiquette et Victor te dira si c'est bien, si c'est de la bonne qualité, si t'as bien fait d'acheter ou si tu t'es fait carotte et que ça se trouve, c'en est même pas, puisqu'apparemment, il y a pas mal de choses à comprendre sur le Cachemire. Et moi, Victor, je vais te souhaiter écoute, des bonnes ventes et j'espère que tu vas rattraper Nicolas Sarkozy. Alors, et ça, c'est tout ce que je te souhaite. Putain, ça me ferait bien plaisir.
Beaucoup.
Ça me ferait bien plaisir. Et je te dis à bientôt. Ciao, Victor.
À bientôt.